BFM Business et Tech & Co présentent Tech & Co, la quotidienne. François Sorel.
Bonsoir à tous, 19h31 en ce jeudi, très heureux de vous retrouver. Et bienvenue sur BFM Business et bienvenue dans Tech & Co, la quotidienne. Vous savez, chaque soir, on plonge dans l'actu tech, on essaie de décrypter, de décoder une actu qui est évidemment très très riche en ce moment. Et ce soir, au sommaire de ce Tech & Co, la quotidienne, eh bien, on va revenir sur cette rumeur qui enfle et qui dégonfle aussi concernant l'IA qui serait destructrice d'emplois. Vous allez voir qu'il y a des signaux qui sont assez contradictoires. On va en parler dans un instant. On va parler aussi de nos télés. Peut-être avez-vous une télé LG et Sony. Eh bien, visiblement, ces deux grandes marques jettent l'éponge et vont confier la fabrication de leur télé à des constructeurs chinois. Et puis, tout à l'heure, invité exceptionnel dans Tech & Co, j'ai eu le plaisir d'interviewer le cofondateur de Mistral. Il s'agit de Timothée Lacroix. Et pendant près d'une demi-heure, il répondra à toutes mes questions. On parlera justement de cette destruction d'emplois à cause de l'IA. On évoquera aussi des projets industriels de Mistral qui a annoncé pas mal de choses aujourd'hui. On fera le point donc durant cette interview. Voilà le sommaire de Tech & Co, la quotidienne. Un grand merci d'être là et bienvenue à vous toutes et à vous tous.
Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Avec sur le plateau de Tech & Co ce soir pour débriefer l'actu du beau monde, mesdames, messieurs, Yves Maître est là. Bonsoir Yves.
Bonsoir.
Yves Maître qui est operating partner chez Jolt Capital, tu as été aussi le patron de HTC, tu as travaillé chez Orange, tu connais par cœur les rouages de la tech et merci d'être là régulièrement. À tes côtés, un petit jeune qui vient d'arriver, il est en stage ici.
Le Moïse, pour ceux qui ont regardé Roland Garros,
de 17 ans.
C'est ça. Frédéric Simotel.
Bonsoir François, bonsoir à tous.
Il monte toujours au filet, bien évidemment, dans l'actu tech. Journaliste à BFM Business. Et nous avons aussi Didier Sens ce soir. Salut Didier.
Oui, bonsoir.
Quel plaisir de te retrouver, cher Didier, journaliste tech et qui suit cette actu aussi depuis de nombreuses années. Quand l'industrie devient le nouvel Eldorado de l'intelligence artificielle. Autour du français Mistral AI de partir à l'assaut du secteur, déjà en collaboration avec ASML et Stellantis, Arthur Mensch a profité de la première édition de son AI Now Summit pour annoncer trois nouveaux partenariats avec Airbus, BMW et EDF, du beau monde donc, l'occasion pour la start-up de s'affirmer dans l'IA physique face à une concurrence américaine de plus en plus féroce. Éline Lefaou avec Simon Tenenbaum et on revient juste après bien sûr.
Mistral AI voit l'industrie avec un grand I de la défense à l'énergie, mais aussi avec un grand V pour vertical. La pépite tricolore le sait, difficile de faire le poids face aux mastodontes OpenAI ou Anthropic qui investissent à coups de milliards de dollars. Alors Mistral opte pour un autre modèle, l'IA dite sur mesure, avec le déploiement de 300 ingénieurs directement chez ses clients. L'objectif, proposer des outils adaptés à leurs besoins. Ces nouveaux partenariats avec EDF, Airbus ou BMW figurent comme des cas d'usage idéal, selon Timothée Lacroix, cofondateur de Mistral.
On va s'intégrer dans leurs équipes, on va passer beaucoup de temps à comprendre leur business. Une fois qu'on a fait ça, donc on fait un pilote, si ça se passe bien, et dans le cas d'Airbus ça s'est bien passé, on commence à travailler sur un partenariat beaucoup plus long terme. C'est des partenariats qui sont fantastiques pour nous parce que ça nous permet de nous projeter sur du temps long, ça nous permet d'engager des projets beaucoup plus ambitieux, de co-développer des produits.
Vertical dans le fond, mais aussi dans la forme. Arthur Mensch dit vouloir être un acteur full stack dans l'intelligence artificielle, c'est-à-dire être présent du centre de données aux applications. Un nouveau projet de data center en Essonne a été annoncé. Reste que Mistral n'y arrivera pas seul. Son PDG a rappelé l'importance de mettre en place une préférence européenne dans les marchés publics d'intelligence artificielle.
Voilà, je vous le rappelle tout à l'heure, dans moins d'une heure maintenant, aux alentours des 20h30 et pendant 28 minutes, interview exclusive de l'un des cofondateurs de Mistral, Timothée Lacroix, répondra à mes questions. On évoquera les annonces qui ont été faites par Mistral aujourd'hui, mais aussi d'une manière générale, la stratégie de notre pépite IA française. Fred, tu y étais ce matin. Alors, c'est intéressant parce que c'est le premier summit de Mistral qui fait un peu comme tous les autres, finalement, comme OpenAI, qui régulièrement fait des points publics, avec des partenaires, etc., pour annoncer leurs nouveautés. Et ils n'ont pas été avares en nouveautés hein, ce matin.
Oui, bah, ils ont annoncé. Alors déjà, faut voir, c'est toute une journée donc au Carousel du Louvre. Donc ils ont réuni plus de 2000 personnes. C'était assez international. D'ailleurs, on entendait beaucoup parler anglais. Enfin, il y a beaucoup de nationalités, en tout cas, qui étaient là. Beaucoup de grands patrons aussi. Patrick Pouyanné, patron de Total. Guillaume Faury, le patron d'Airbus. Rodolphe Saadé, le patron de CMA-CGM, qui est aussi le propriétaire de BFM Business. Des représentants de BNP Paribas. Le grand patron de toute l'IT de BMW. Voilà. Donc, ils sont venus présenter chacun un peu ce qu'ils mettaient en place avec Mistral. Et puis, on voit que Mistral, aujourd'hui, a bien présenté sa stratégie. Ils ont la partie LLM. Donc, ça, on les connaît avec le chat. Ils ont la partie qu'ils appellent Studio. Là, c'est toute la base qui va permettre de travailler avec les entreprises. Et c'est là-dessus qu'ils basent leur développement. Et puis, il y a toute cette partie compute, c'est-à-dire tout le calcul, l'hébergement. Donc, ils ont
ils sont en full stack, comme on dit.
Ils ont un premier data center donc à Bruyères-le-Châtel, donc dans l'Essonne. Et ils ont annoncé un deuxième qui va ouvrir en janvier 2027. Ils ont 30 000 GPU Nvidia, quand même. Donc, ça commence à être un partenaire assez sérieux. Et donc, là, voilà. Alors, il y a eu plein d'annonces un peu techno sur les produits. Moi, je retiens le Vibe for Work, donc qui va aider chacun des collaborateurs à créer ses propres agents.
Qui a le chat un peu boosté.
Voilà, un peu boosté, voilà, qui va permettre de créer ses propres agents. Ils ont ça. Ils ont. Alors, il y a tous les partenaires. Ce qui est amusant aussi de voir, c'est tout l'écosystème qui est là, parce qu'on dit, oui, il y a 300 personnes qui vont être placées chez les entreprises. Bon, il y a beaucoup de gens de Capgemini, d'Accenture et de Soprasteria. Il ne faut pas les oublier, qui sont bien là aussi pour intégrer. Parce que
c'est la transformation numérique des entreprises boostée à l'IA, finalement. Voilà. C'est un peu ça.
Donc c'était une journée et ils prévoient déjà d'autres sommets, peut-être un aux États-Unis en septembre.
Bon, très bien. Est-ce que vous avez suivi les annonces de Mistral, notre pépite française de l'IA?
Oui, bien sûr. Moi, je trouve cette stratégie super maligne, super intelligente, parce qu'effectivement, au lieu de se heurter de plein fouet aux généralistes américains, entre publics, OpenAI et compagnie,
qui ont beaucoup plus de moyens,
beaucoup sur le volume, sur la quantité, parfois au détriment de la qualité, disons. La stratégie de Mistral, c'est clairement d'attaquer les marchés sectoriels, et je trouve ça très bien. Ils avaient déjà commencé avec la finance. Ils avaient un système d'AI spécialisé. D'ailleurs,
leur premier client, c'est BNP Paribas.
Voilà, qui leur demande d'ailleurs de mettre au point un concurrent de Mythos pour essayer de détecter les failles des systèmes informatiques. Donc, ils ont fait la finance, ils ont fait qu'est-ce qu'ils avaient fait encore
Juste une chose. On parlait tout à l'heure de BMW. Très intéressant ce qu'ils font avec BM.
Crash test.
Les crash tests, ils simulent, alors non pas des crash tests parce que ça se fait déjà, mais ils simulent en fait des pièces de véhicules. Ils arrivent à comprendre comment, avant que ce crash test se fasse, cette pièce va réagir en cas de choc. Et donc tout ça, c'est grâce à l'IA qu'on le fait, et il paraîtrait que ça leur fait gagner beaucoup de temps. Mais Timothée nous racontera tout ça tout à l'heure.
Et alors, donc justement, je continue. Donc après les finances, il y avait l'administratif, il y avait le grand public avec le chat, etc. Maintenant, ils s'attaquent clairement à l'industrie, à l'ingénierie industrielle. Donc comme tu dis, effectivement, pour optimiser des processus, pour faire des tests plus réalistes, c'était jusqu'à présent des opérations, Frédéric, tu m'interromps si je me trompe, qui étaient plutôt dédiées à des gros logiciels de simulation, comme ceux qu'on voyait plutôt chez Dassault, Systèmes, etc. Maintenant, donc ça va être peut-être plus spécifique, plus léger. Et moi, je trouve encore une fois que cette stratégie est vraiment très intéressante. Il délaisse pas pour autant l'aspect grand public, c'est bien qu'on ait un acteur français qui s'intéresse à un marché aussi prometteur que celui de l'industrie. Et puis c'est bien aussi qu'ils mettent en avant l'aspect souveraineté numérique qui est bien entendu l'un des enjeux de l'IA aujourd'hui.
Tous les clients que j'ai vus ce matin, toute la journée, j'aurais dit mais pourquoi Mistral plus qu'un Anthropique et tout ça. Il dit mais c'est la souveraineté.
Ouais,
donc vraiment. Et Mistral veut apparaître à l'acteur international, mais Mistral a bien compris ça au niveau français et même au niveau européen.
Après il faut qu'il soit à la hauteur. C'est toujours pareil.
Oui, Vibe for Work, il y a encore quelques améliorations, mais enfin c'est quand même.
Non mais ce que ça veut dire aussi, non juste je termine avec ça, c'est qu'ils sont obligés obligés de respecter donc les règles européennes, ce qui n'est pas le cas de d'autres acteurs. Ils sont obligés d'agir sur des réglementations donc qui changent tout le temps, de suivre les processus système des entreprises pour venir opérer chez eux. Donc tout ça, ça fait que effectivement, ils ont peut-être plus de légitimité sur des marchés européens et français que des acteurs internationaux qui fonctionnent à leur vitesse avec leur processus, pas forcément en tenant compte de ce qui se passe dans la législation européenne.
Yves, ton point de vue ?
Moi, je suis super super content et je trouve que c'est vraiment à l'honneur de l'Europe et bien sûr de la France puisqu'ils sont français. Et puis à l'honneur de la jeunesse. Aujourd'hui, on a eu Moïse à Roland-Garros, 17 ans. On a Arthur Mensch qui a une dizaine d'années de plus, on va dire, ou une grosse dizaine d'années de plus. Et quand on voit toute cette jeunesse qui est par ailleurs fortement critiquée, moi je suis extrêmement fier de voir l'état de maturité, l'état de professionnalisme d'un certain nombre de ces jeunes. Alors on critique l'éducation, voilà le résultat, il n'est pas si mauvais que ça. Maintenant, si on revient sur la stratégie, je trouve que c'est une implémentation parfaite d'une stratégie. On ne va pas dire que c'est nouveau la stratégie qu'il fait. Il a pris le meilleur des stratégies des autres, ok ? Il l'a mis dans un paquet, donc il a super bien copié. Ok, mais c'est tout à son honneur. Hein. C'est pas négatif de copier. Moi, je regarde la copie comme quelque chose d'extrêmement positif. On voit le nombre de personnes qui vont dans des musées pour dessiner. Enfin, bon, je veux dire l'art de faire ses gammes au piano. Et donc, il a pris le meilleur de chacun et il l'a mis ensemble avec un courage de dingue. Alors, on va voir pourquoi je considère que c'est un courage de dingue et une audace incroyable pour une entreprise aussi jeune. Alors, d'abord, il a parfaitement compris le jeu politique de l'Europe. Et dans l'interview qu'il a fait au Parlement, je trouvais qu'il avait été très malin. Donc, il a bien compris toutes les règles politiques, les mots qu'il faut dire pour s'allier
oui,
le puis, monde politique.
Et puis, envoyer un électrochoc aussi à l'opinion
Absolument.
Et aux décideurs en disant, attention, il nous faut de l'électricité. Parce donc, que, en fait, le moteur de tout ça, c'est l'électricité.
Donc, ça, c'est la première chose qu'il a bien fait. La deuxième chose, et là, je ne parle pas technique, hein, il fait un écosystème. Et ce qui est incroyable, c'est que cet écosystème, il est en train de faire un écosystème, pas pour le consommateur, le B2C, pas pour Madame Michu, mais pour l'industrie. Or, il sait que l'industrie a de l'argent. Madame Michu, elle n'a pas beaucoup d'argent. Enfin, je veux dire, on le sait très bien. Donc, il va où est l'argent. Et il fait un écosystème au départ français avec la BNB. Et maintenant, cet écosystème, parce qu'il est crédible, parce qu'il a délivré, il devient européen avec des gens comme BMW. Ce qu'il est en train de faire, c'est un écosystème unique et il est en train de fédérer tout un écosystème autour d'une seule AI qui est la sienne en Europe, en jouant bien entendu sur la souveraineté des données. C'est juste super bien fait et c'est super bien implémenté avec un certain nombre de partenaires, comme tu le faisais remarquer, qui sont des partenaires qui donnent des ressources et qui savent faire ça. Donc je trouve ça très malin. Sans LLM, c'est le meilleur du monde ? Non, non, non. Il n'a pas un 12 cylindres en V. Je veux dire, ce n'est pas un moteur Ferrari. D'ailleurs, les moteurs Ferrari, on en parle en ce moment. Ouais. D'accord ? Mais il a un moteur qui marche bien. C'est style le 6 cylindres BMW. Ça tourne, ça roule. Ça ne fait pas des exploits, mais ça démarre.
Bah, il ne faut pas que ça devienne le pure tech de Renault.
Non, non, non.
Non, non, non. C'est Renault ou Peugeot, le pure tech ?
C'est Stellantis, je crois.
Donc, c'était Peugeot. Ouais.
Et pardon, puis derrière, il a décidé de faire une intégration verticale sur l'inférence, et pas sur le trading, sur l'inférence, parce que c'est là où sont les coûts. Et où il a un risque, c'est d'être plus cher que les autres. Donc il est obligé de faire l'intégration verticale, comme sur les autres, et c'est là où est le gros risque, à mon avis, parce que les ressources financières dont il va avoir besoin, je crois même que Timothée a évoqué ces derniers jours de faire son propre chipset, enfin, où il n'excluait pas de faire son propre chipset, là, technologiquement et financièrement, ça va demander beaucoup de ressources. Et je trouve ça extrêmement courageux. Ouais, ouais. Mais si son écosystème marche bien, s'il a le support des politiques, il arrivera à faire sa verticalité et donc être compétitif. Donc, il ne cherche pas à rouler en Formule 1. Il cherche à faire une course raisonnable, bien foutue, et à créer son écosystème. Et pour le moment, où il est très très fort, c'est qu'il l'implémente bien. C'est-à-dire que ça marche, c'est-à-dire que les pièces rentrent bien ensemble et tout ça marche bien. Et ça, c'est extrêmement compliqué.
Non, et autre chose aussi, c'est que on parle de frugalité aujourd'hui. C'est-à-dire que là, au mois d'avril, il y a toutes les entreprises qui ont eu leur facture de token, là, parce que ça s'est un peu ouvert. ça a été
la fête.
Ça a été la fête au village, enfin pour OpenAI et tout ça, parce qu'il y a eu des belles factures dans ce domaine. Et justement,
ça va devenir un sujet, ça, hein, pour les entreprises.
Ça en est un. Hein, ce qui s'est passé au mois d'avril, je peux dire que toutes les entreprises, elles ont fermé très vite les robinets.
Et pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé en avril? Pourquoi en avril?
Parce que tout le monde,
Commence à voir les usages qui arrivent, voilà, et que
les modèles ont ouvert davantage leur système, et tout d'un coup quelqu'un pour 200 euros pouvait se lâcher, et puis tout d'un coup ils ont dit on va commencer à facturer un peu.
Non, mais ce qui s'est passé en avril, si je puis me permettre, c'est que les agents, ce qu'on appelle l'agentique a explosé.
Okay.
Et donc les agents, ils travaillent tout seuls pendant que tu dors. Sauf qu'ils prennent ta carte de crédit pendant que tu dors. Et quand tu te réveilles, t'as le banquier qui t'a envoyé un texte, tu vois. Et donc tout le monde s'est dit, qu'est-ce qui se passe? Et surtout les OpenAI, etc., qui avaient donné buffet à volonté. Parce que toi, t'étais parti te coucher, donc ils se sont dit, bon, c'est bon, ils sont partis se coucher, on va ranger le buffet, ils ont mangé ça. Puis hop, tous les petits nains sont arrivés la nuit pour faire le truc. Et les propriétaires, quand ils se sont levés le matin, le buffet, il était vide. Et donc, à un moment, ça tient plus économiquement. Donc, à un moment, ils ont dit, on arrête le buffet à volonté, on augmente les prix. Et puis, le client, tout d'un coup, il s'est dit, bon, les petits nains vont rester à la maison, et puis on va juste manger tous les deux.
J'adore les images d'y mettre.
Et les clients ont consommé énormément, donc on a eu des grosses factures. Et les modèles de Mistral ont l'avantage d'être aussi beaucoup plus frugaux. Je parlais tout à l'heure des avantages. Gens, ce qu'ils cherchent, c'est performance, voilà. Mais là, à la limite, parfois, ils sont un peu moins bons que les autres. Mais derrière, c'est la souveraineté. Et le troisième point, c'est la frugalité. Et aujourd'hui, on voit ce qu'on appelle dans le monde de les FinOps, quoi. Ceux qui regardent vraiment la finance, c'est la consommation cloud, tout ça. Maintenant, les FinOps, ils sont aussi sur la consommation des tokens, parce que des tokens de l'énergie, etc., parce que la facture peut très vite grimper. Et c'est apprendre aux gens à dire, tiens, pour tel type de requête, vers quel modèle j'oriente, quoi. Est-ce que vous êtes obligé de faire appel à un cloud, je ne sais quoi, pour cette partie-là, alors qu'un modèle plus petit serait...
Cela étant, et c'est vraiment important, l'AI gratuite, manifestement, c'est la fin.
Oui.
Et qui c'est qui va payer l'addition à la fin? C'est les utilisateurs, donc c'est vous et moi. Donc
la question de savoir, c'est aujourd'hui, tous ceux qui utilisent ChatGPT, Claude ou Gemini en version gratuite, et dont ça suffit, finalement, parce que c'est vrai que quand t'es étudiant, tu vois, pour faire tes petites requêtes comme ça, ChatGPT gratuit, ça suffit. Qu'est-ce qui va se passer quand ça va devenir payant? Est-ce que les gens vont s'abonner à ChatGPT? Est-ce que c'est devenu une drogue, finalement, qui nécessite un abonnement? C'est ça la question.
Il y a tellement de concurrence qu'il y aura un moyen,
Je pense. Je pense qu'il y en aura toujours un qui sera gratuit. C'est un peu comme le streaming musical, hein. Il y en a plein qui finalement ne payent pas, ont un peu de pub, etc.
À la fin, il reste Spotify et Deezer chez nous et c'est payant.
Ouais.
Et par contre, là où c'est important aussi la partie qu'on appelle compute, hein, mais les calculs, l'hébergement et tout ça, c'est que parce qu'ils ont quand même un objectif de viser 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, c'est là où ils vont faire de l'argent. Hein. C'est pas dans les LLM et c'est pas non plus dans le Vision Studio. Vision Studio, c'est des projets où ils vont gagner de l'argent, évidemment, mais pas autant à hauteur de monter à des centaines de millions.
On reviendra sur Mistral tout à l'heure, Timothée Lacroix, cofondateur de Mistral AI, interview qu'on a enregistrée il y a quelques heures à peine, qu'on vous diffuse à partir de 20h30. On reste dans ce sujet, enfin, en tout cas, on est toujours dans la même sphère, puisque je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a encore quelques mois, on évoquait régulièrement les cris d'alarme de tous les patrons d'IA qui disaient « Attention, on va droit dans le mur, on va se retrouver avec des millions de personnes qui vont se retrouver sur le carreau parce que leur emploi va être supprimé à cause de l'IA. » Jensen Yang, Dario Amodé, on avait eu Sam Altman, même Arthur Mensch avait dit ça, ok? Et ce qu'il y a d'étonnant, c'est qu'on a l'impression qu'ils sont envoyés, ils ont fait un petit groupe WhatsApp, les gars, il y a quelques jours, ils se sont dit, vous savez quoi, on va inverser la vapeur et on va dire l'inverse. Alors, c'est pas tout à fait l'inverse, mais c'est le fait de dire que finalement, avec le recul et avec le temps qui passe, on se rend compte que l'IA n'est pas aussi autant destructrice d'emplois que ce qu'on avait pu l'annoncer il y a quelques mois. Et je voulais avoir votre avis là-dessus. Est-ce que c'est bullshit? Parce qu'ils se rendent compte que c'est vraiment quelque chose, c'est une information qui est vraiment négative, finalement, et qui risque de leur retomber dessus. Donc, est-ce qu'ils adoucissent un petit peu leur point de vue? Est-ce qu'ils pensent vraiment que, finalement, l'IA ne va pas détruire des emplois? Je voulais avoir votre point de vue là-dessus. Didier.
La réponse est dans la question. Je veux dire,
Il y a un phénomène qui est lié au contexte. Et le contexte, c'est quoi? C'est l'entrée en bourse de la majorité de ces entreprises. Et tu comprends très bien que les chefs d'entreprises liés à l'IA ne veulent surtout pas effrayer les investisseurs, parce qu'en plus, il y a une espèce de mouvement aux États-Unis surtout, d'opposition à l'IA, on l'a vu, hein, qui est parfois peut-être même assez violent. Donc OpenAI, Anthropic, tous ces gens-là, ils veulent surtout pas effrayer leurs investisseurs et leurs clients. Donc, ils calment le jeu. Ils disent, regardez, finalement, c'est pas aussi terrible que ça. L'apocalypse n'aura pas lieu, a dit Sam Altman.
Cela dit, pour les entreprises, c'était plutôt une bonne nouvelle, le fait que l'IA détruise des emplois. Parce non, que mais ça, alors, ça leur permettait de licencier pas mal de monde.
Ce que disait Jensen Huang, ce qui est très juste, d'ailleurs, il disait, mais attendez, qu'est-ce que c'est que ce bullshit, pour le coup, de dire que on licencie à cause de l'IA, c'est vraiment de la paresse intellectuelle. Parce que l'IA est arrivée il y a 2 ans, et c'est pas en 2 ans que ça va saper toute l'économie mondiale au point qu'on vient 10 000 salariés d'une grosse entreprise. Donc, c'est clairement un prétexte. Et ça, on l'avait plus ou moins décodé déjà, hein. Donc il y a ça, il y a le côté, on veut rassurer les gens. Je suis assez partagé sur l'exemple qu'a donné, Arthur Mensch dans son interview sur RTL, où il expliquait en gros que, dans le cadre des programmeurs, par exemple, l'IA permet à un développeur de ne plus être juste un codeur, mais d'être un espèce de chef d'orchestre où il définit son projet et il laisse les IA produire le code, etc.
En gros, l'IA ne remplace pas les programmeurs, quoi.
Voilà.
Et les développeurs.
C'est un secteur. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans le domaine de la traduction? Qu'est-ce qui se passe dans le domaine de l'édition? Qu'est-ce qui se passe dans le domaine même du cinéma, de la musique? On le voit tous les jours qu'il y a une espèce de tentative d'hégémonie.
De la presse, même d'une manière générale.
De la presse, du journalisme, j'allais oublier. Donc tout ça fait que effectivement les gens se méfient et que l'idée de dire que l'IA ne vient pas voler des emplois, elle est peut-être à nuancer. Et puis on verra, puisque comme elle évolue sans arrêt, on ne sait pas ce qui va se passer dans 6 mois. Et je rapproche ça aussi de ce qui m'a paru intéressant, c'était la fameuse encyclique du pape qui explique en gros que l'IA doit être maîtrisée, contrôlée et qu'il ne faut surtout pas qu'elle vienne s'opposer à l'humain. C'est un discours qui est celui du pape, hein, qui est un discours moral, mais qui a quand même des répercussions sur une grande partie de la population, l'Amérique latine, l'Irlande, enfin ces pays traditionnellement catholiques, et qui donc illustre d'une certaine manière ce que les gens pensent aussi. Voilà.
Yves.
Non, moi je suis content parce qu'il y a quelque temps on parlait de la bulle financière autour de l'AI, maintenant on parle de la bulle du pape, donc quelque part, oui je pouvais pas ne pas la faire, c'était pas possible, tu me connais.
Oui.
Ce que je veux dire c'est qu'il y a la réalité du business, et la réalité du business que ça va créer des emplois ou détruire des emplois, on n'en sait rien, ça va à mon avis dépendre de la courbe de la productivité.
Et des secteurs
et de la vitesse à laquelle ça va prendre et la productivité à laquelle ça va prendre. Il paraît assez évident que dans la programmation, ça va détruire des emplois. Il paraît assez évident que dans la cuisine ou le service dans un bar, ça va pas détruire d'emplois. Voilà. Donc ça va vraiment dépendre des secteurs.
Par contre, jusqu'à ce que les robots arrivent, mais ça sera dans 10, 15 ans, 20 ans.
Enfin, le robot qui remplira la vaisselle et qui servira au bar et qui prendra la monnaie et puis qui fera la petite plaisanterie sur la bulle du
bar. Mais avec Fred, on en rêve, c'est pour ça si tu veux, c'est pour on aimerait bien qu'il arrive ce robot.
Oui, mais bon, OK, et il va falloir encore qu'on fasse la vaisselle.
On rêve encore. D'accord.
Qu'on fasse la vaisselle. Compris. Non, et après il y a le bullshit, la communication, et c'est peut-être ça qu'il faut décrypter pour les auditeurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un nouveau produit. Donc, on a dit, achète ce nouveau produit. L'AI, tu vas gagner beaucoup d'argent. Si tu l'achètes, tu vas devenir beau, intelligent, machin, et tu vas gagner beaucoup d'argent. Donc, ça détruit de l'emploi. Donc, achète-le. Donc, les entreprises ont acheté le truc. Puis, à un moment donné, elles se sont mis le maquillage, puis elles se sont dit, elles ont pris les petites pilules, puis elles ont dit, peut-être que je rajeunis, je me sens un peu mieux, mais enfin bon, j'ai quand même pas l'impression.
C'est pas aussi impressionnant que ce qui était prévu.
C'est pas aussi impressionnant que ce qui était parti. Donc, et puis après, surtout, il y a la population qui s'est dit, attends. T'es en train de me dire que tu vas me zigouiller, là. Moi, je travaille dans la boîte de développement XYZ. Et là, t'es en train de me dire que alors, ils ont commencé à poser des questions à leur patron. Tu vois, mais patron, on a vraiment besoin de ça pour me zigouiller. Enfin, moi, je suis pas d'accord. Et donc, tout d'un coup, il se passe aux États-Unis un contrepas ou un contrepoint où les gens commencent à être pas d'accord sur les data centers, où les gens commencent à pas être d'accord sur l'inflation, parce que l'inflation énergétique pour alimenter sur le data center, et les gens se disent, mais attends, je vois pas pourquoi je continuerai à travailler pour me faire tuer. Okay? Donc, tout d'un coup, panique à bord de tous ces géants-là. Mais non, les data centers sont pas polluants.
On sort l'extincteur et on revient sur ce qu'on a dit.
Voilà. Le détroit d'Hormuz, c'est juste ponctuel et l'énergie va baisser. Quant aux emplois, bullshit, on s'est juste trompé, quoi. Donc, je pense qu'il y a tout un dialogue, il y a toute une dialectique autour de ça. Je pense que la réalité, c'est qu'on n'en sait rien et ça dépendra d'un certain nombre de branches, comme tu l'as tout à fait justement fait remarquer.
Fred. Je pense qu'il faut plus parler de tâches que de métiers, parce que c'est tout ça. Souvent, il y avait une étude qui était sortie en disant, voilà, décomposez un peu tout ce que vous faites dans la journée, dans la semaine, en nombre de tâches, voilà. Répondre aux mails, assister à des réunions, etc. Et puis, sur l'ensemble de ces tâches-là, qui sont celles de vous réfléchissez, vous agissez, vous faites vous programmez, je ne sais quoi, si 30% peuvent être remplacés par une IA, là, votre métier, il est peut-être en danger.
Oui, il est en danger, oui.
Mais moi, ce que je pense surtout, c'est que là, il y a un très gros rôle de la part des dirigeants, des parties RH. Je prends deux exemples. Le premier, on était à une table ronde à KPME il y a quelques jours avec une entrepreneuse française dans l'IA, Prisme AI, Wafa Amal, et qui nous dit à un moment, dit, nous un matin, avec tous les agents, un matin on s'est réveillé, un tiers de mes développeurs et plus de boulot. C'est fait par des agents et tout ça. Et donc, comme on voulait pas arriver là parce qu'on s'est rendu compte qu'on allait aller vers là, très en amont, on a commencé à redispatcher les tâches, les postes, voir.
Oui, parce cette personne a une responsabilité sociale, on va dire, importante.
Oui, mais c'est pour ça qu'il faut réfléchir en amont. Mon deuxième exemple, c'est dans une entreprise où tu avais des gens qui contrôlaient, des très grosses boîtes, qui contrôlaient des notes de frais, voilà, il y avait un logiciel. Et puis tout ça, ça commençait à être remplacé par l'IA, évidemment, les 9 personnes qui étaient là pour contrôler nos deux frais, on n'a plus besoin d'eux, l'IA était en train de faire tout ça. Mais l'entreprise, elle a pris ça très en amont, et ces 9 personnes, elle a commencé peu à peu à les réaffecter. Alors, il faut que les personnes acceptent de ne plus faire ce... Alors, ça peut être un peu rébarbatif, mais pour certaines, ça leur convenait tout à fait. Voilà, un peu de responsabilité, un peu de il y a un peu de pression, mais sans plus. Et donc, c'est pour ça que pour moi, c'est un gros enjeu RH, c'est de penser vraiment avant, qu'est-ce qu'on va faire des gens, regarder vraiment tous les métiers qui peuvent être directement impactés, et voir un peu ce qu'on peut en faire.
Voilà pour ce sujet. On va s'arrêter quelques secondes. Voilà, 2 minutes. Et on revient pour la suite de ce débrief de l'actu tech dans Tech & Co. avec Yves Maître, avec Didier Sens, avec Frédéric Simotel. Et on va parler télé, parce que ça bouge aussi dans l'industrie de la télévision. La télé, ça fait plus recette. Et on a l'impression que les marques mythiques, historiques dans ce domaine, eh bien, petit à petit, arrêtent, jettent l'éponge. C'est étonnant, c'est triste. On en parle dans quelques instants, à tout de suite.
Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Voilà le retour de Tech & Co, la quotidienne. Merci d'être là en ce jeudi soir avec nous pour débriefer l'actu. Encore pendant une demi-heure, nous avons Frédéric Simotel, Yves Maître et Didier Sens. Et après avoir parlé longuement d'IA, et avant d'y revenir avec, je vous le rappelle, l'interview dans quelques minutes de Timothée Lacroix, le cofondateur de Mistral AI, qui a répondu à mes questions. Avant tout cela, parlons de produits high-tech. La télévision qui, on le sait, est dans une situation compliquée. Alors là, il va y avoir la Coupe du Monde qui va arriver, donc forcément les constructeurs de télé se réjouissent parce que c'est toujours le moment où on renouvelle sa télé, on s'offre une nouvelle télé, etc., etc. Mais malgré tout, ce secteur-là va pas bien et on en avait parlé il y a quelques semaines de cela. Sony a annoncé vouloir arrêter la fabrication de ses propres télévisions. Vous vous rendez compte, Sony, quand même, qui est...
Ça fait quand même un bout de temps que Sony ne fabrique plus les dalles et ne se contente que de faire de l'électronique.
Oui, mais ils fabriquent... Enfin, c'était leur propre télévision, si tu veux. C'était une télé Sony que t'as acheté. C'est vrai que c'était plus leur dalle, mais malgré tout, télé Sony.
Et dedans, il y avait beaucoup de Google aussi. C'est un problème aussi. Quoi.
Bon, en tout cas, maintenant, ils ont décidé d'arrêter. Première info... Enfin, ils arrêtent. C'est-à-dire qu'ils ont monté une joint venture avec TCL. Et c'est TCL qui va, à partir de l'année prochaine, fabriquer les télévisions, même les haut de gamme de Sony. Parce que souvent, pour ces marques-là, le bas de gamme est fait par, on va dire, une marque B. Et le haut de gamme était conservé par la marque originelle. Là, non. Sony, en fait, se désolidarise et TCL fabriqua les télés. Première chose. Deuxième chose. Et là, c'est pas confirmé. Mais il y a une rumeur. Qui se fait de plus en plus insistante, comme quoi LG, le géant coréen de la télé aussi, arrêterait non pas de fabriquer les dalles, parce que c'est leur business, mais ne commercialiserait plus de télé, ne fabriquerait plus de télé. Comment on va faire au CES de Las Vegas? Franchement, alors, on se retrouvait toujours des stands magnifiques d'LG avec de superbes écrans.
Alors, t'as oublié de parler de Panasonic aussi, qui a vendu sa division à un groupe chinois.
C'est vrai.
Alors, LG, bon, c'est un fabricant de téléviseurs qui est quand même moins connu que Samsung, moins connu que Sony, que Panasonic.
Mais ouais, qui avait fait son trou dans le haut de gamme avec l'OLED.
Et qui est super revenu sur le business avec l'OLED dans les années 2017-2018. Et qui a construit donc une série de téléviseurs plutôt de bonne qualité, même si bon, les testeurs disaient que en termes d'électronique, ils étaient un peu moins bons que les concurrents, y compris Philips, qui lui aussi.
Et puis ils ont leur propre OS aussi. C'est
oui, qui est WebOS, qui est un ancien OS de l'époque
d'un Silicon Valley. Comme ça, là, je sais plus comment ça s'appelait. C'était Palm Pilot, non? C'était pas Palm Pilot WebOS?
Enfin, bon, on s'égare. Pion ou Palm? C'était un des deux. Ouais, peut-être Palm, ouais. Et alors, mais qu'est-ce que ça nous dit cette histoire-là ? Ça nous dit que le centre de gravité de la télévision est en train de changer géographiquement. Avant, c'était le Japon, c'était Sony, Panasonic,
Toshiba
et toutes ces marques-là qu'on a connues. Après, ça a été un peu la Corée, Samsung, LG, etc. Maintenant, c'est la Chine. Il n'y a plus d'industrie du téléviseur classique qu'on a connue pendant des années au Japon et en Corée. Donc, ça, c'est une première chose. Deuxième chose, il y a un problème technologique. C'est-à-dire que les Japonais étaient très forts sur les premiers écrans plats, qui étaient des LED et des plasmas, rappelez-vous de Pioneer. Les Coréens, après, sont arrivés, LG est arrivé avec le LED. Et maintenant, ce qui marche bien, c'est les micro-LED. Et les micro-LED, c'est une technologie que maîtrisent parfaitement les industriels chinois et qui a l'avantage d'être plus économe et plus économique. Et donc, c'est normal que ce soit ces usines-là qui produisent finalement les dalles qui vont permettre d'avoir une meilleure définition en grande taille par rapport à ce qu'on peut obtenir aujourd'hui en OLED. Donc voilà, il y a ce changement technique, stratégique, qui fait que le métier change un peu. Et puis il y a aussi le dernier point, c'est que s'il y a un changement d'usage. Le téléviseur qui trône au milieu du salon, il est en voie de disparition. Il faut bien se l'avouer un jour ou l'autre. Ça concerne des générations.
Il y a eu un retour de flamme, j'ai envie de dire, avec le Covid. On s'est tous retrouvés confinés. Et la télé est redevenue l'écran principal. Ouais.
Tes enfants, ils regardent comment leur série?
C'est quoi alors? Mes enfants, et elles sont grandes, regardent leur téléphone et en même temps elles regardent la télé.
Ouais, c'est ça.
C'est dingue. Je sais pas comment.
Moi, c'est l'iPad, le téléviseur portable, le PC portable, le MacBook, etc. Mais jamais ils regardent un film à la télé. Il faut leur demander de venir regarder avec nous un film pour qu'ils
acceptent. Il y a quelques programmes fédérateurs, tu vois. Par exemple, The Voice.
Oui, c'est ça.
Des trucs comme ça.
C'est des trucs
qui rassemblent en fait la famille.
Oui.
Ou le foot. Là, typiquement, la Coupe du Monde.
Oui, c'est vrai.
Le foot, tu vas le regarder en famille ou avec des amis parce que c'est un moment convivial. Ou au bar. Mais tu le regardes sur une télé au bar.
Attends, je vais juste te dire, là, on est en train de parler en tant qu'occidental. On est 8 milliards 5 sur cette planète. Des gens comme nous qui ont la télé dans le salon, etc., et qui disent, j'achète plus de télé parce que j'ai mon smartphone personnel. Il n'y en a pas beaucoup sur les 8 milliards. Il y en a peut-être 1 milliard, 2 milliards. Mais la majorité des télés qui se vendent aujourd'hui, c'est pas chez nous, c'est dans l'Asie du Sud-Est, c'est en Chine qui est le plus gros marché mondial. Donc évidemment.
Et la télé est toujours bankable là-bas.
Mais oui, bien sûr, elle est bankable. J'étais en Afrique la semaine dernière, j'étais à Abidjan. Ben oui, il y a encore des marchands de télé, il y en a dans tous les magasins. Évidemment, parce que avoir un smartphone à 200-300 euros, puis s'il y a 6 enfants, plus les 2 parents, ça fait 8 smartphones, ça n'existe pas.
Non,
ça n'existe juste pas. Ouais. Okay, c'est juste pas possible. Donc la télé a encore un rôle central. Donc tout ce business-là, les Chinois, ils sont particulièrement forts parce qu'ils ont des réseaux de distribution. D'abord, ils ont le plus gros marché. Donc forcément, quand tu as le plus gros marché, tes prix baissent parce que tu as tes volumes. Donc tu attires. Puis après, ils sont en Asie du Sud-Est, ils sont juste pas mauvais du tout. Okay, l'Indonésie, c'est 200 millions de personnes. Puis après, en Afrique, puis après en Amérique du Sud. Et évidemment, ils ont de plus en plus de volume, etc., etc. Donc je pense qu'il y a une certaine logique et que tu faisais remarquer. Et donc tu as la valeur ajoutée qui reste au Japon et en Corée, hein, c'est ces fameuses dalles. Et puis après, il y a le métier de crève la dalle, j'allais dire. Et ben ça, c'est les Chinois qui l'ont repris parce que ils ont le volume. Et c'est assez inéluctable. C'est
le Japon est fait encore des dalles. Ils font des dalles au Japon.
Oui, ils font des dalles. Sony fait des dalles.
D'accord.
Ils font encore des dalles.
Il y a une usine Sony Toshiba qui était une joint venture à une époque. Je crois qu'elle marche encore.
Ils font des dalles moins pour la télé, mais pour les voitures ou des choses comme ça.
Ou pour les smartphones.
Mais moi, je me souviens de George Guo qui est toujours d'ailleurs. Enfin, il est plus, mais qui est toujours un acteur influent en Chine, qui était donc le patron de un des grands patrons de TCL. Il reportait directement à Monsieur Li. Et un jour, on va au restaurant à Shenzhen, c'était il y a une quinzaine d'années, il me dit « Yves, on va se mettre à faire des dalles pour concurrencer LG ». J'avais regardé, j'ai dit « Mais Georges, vous êtes complètement... Vous êtes où ? Enfin, vous avez fumé la moquette, enfin, ça n'existe pas, vous allez vous battre contre les Coréens, mais enfin... »
Et surtout avec des procédés de fabrication ben voilà. pas complexes.
Et bien, 15 ans après, ou
10
ans après, ils y sont arrivés. Ouais. Donc, il y a aussi ce courage-là, on en parlait tout à l'heure pour Mistral, il y a ce courage-là de dire rien n'est impossible, on y va, on se bat.
Moi, ce que je trouve très intéressant...
Quand tu as le plus grand marché du monde, tu as quand même un avantage.
Ce que je trouve intéressant et un peu triste aussi, c'est que finalement, on voit que la puissance technologique change de continent, finalement. Ouais, c'était le Japon, quand on était... enfant, ado, jeune adulte, nous-mêmes.
Hein, ça a même été l'Allemagne, hein, les grandes ligues et tout ça.
C'est ça. Mais c'est vrai que ce qui nous faisait rêver, c'était la technologie japonaise. Les télés, les Walkman, les lecteurs de CD, les
magnétoscopes,
tous ces trucs-là, c'était japonais. Et c'était les Japonais qui tenaient le marché, quoi. Après, ça a été la Corée du Sud avec Samsung et LG. Et là maintenant, on revit la même chose, et c'est la Chine qui prend le lead. C'est assez étonnant, je trouve.
C'est-à-dire, ce marché de la télé, c'est un marché ultra compétitif et développé. Enfin, et la techno, ça coûte hyper cher. Donc là, aujourd'hui, on se concentre sur autre chose. Et les Chinois, comme tu disais, moi, pour moi, les Chinois, il y a deux choses. La première, évidemment, un marché domestique gigantesque. Et puis ils sont. Je disais une étude par rapport à ce que tu disais. Parfois ils ont deux trois télés par foyer. Enfin voilà, ils sont la télé reste un moment important. Donc marché gigantesque, on baisse les coûts. Et puis deuxième chose, c'est que les Chinois, peu à peu, à force de copier, à un moment ils sont devenus plus forts. Et puis ils commencent à avoir des technologies aussi de plutôt haut de gamme. Et donc maintenant aujourd'hui, les autres peuvent pas lutter. Et juste une chose par rapport à ce que disait Didier. Moi je pense quand même. Et je vois ça derrière François, il y a le home hub là. Enfin, il y a un écran. Voilà, on en a fait une petite illustration avec la télé. Moi, je crois beaucoup. Ça fait 2-3 ans que j'y crois en allant au CES à chaque fois. Moi, je crois toujours à la télé home hub. C'est la télé va être l'endroit. Va être l'endroit où on va lui parler. Ça sera notre agenda.
Non, moi, j'y crois pas du tout.
Ah ben, moi, je peux te dire, j'ai vu les trucs, c'est Samsung. Et je me suis dit, mais c'est ça. Pour moi, ils ont compris.
Juste une chose sur laquelle il faut être vigilant. C'est l'impact que ça va avoir sur les distributeurs, des gens comme Boulanger ou Fnac Darty. Parce qu'aujourd'hui, quand il y a cinq compétiteurs, on va dire TCL, Skyworth, LG, Samsung et qui d'autre, okay, chacun loue la place, chacun achète sa place dans ces magasins-là. Donc les magasins font de l'argent, d'une part par l'achat, mais avec des marges relativement faibles, hein, okay, et d'autre part parce qu'ils louent la place à ces constructeurs. Et quand on loue un espace de télé et qu'on veut montrer qu'on a des grandes télés, on est obligé de louer beaucoup d'espace. C'est pas comme quand on vend un stylo Bic. Okay, quand on vend un stylo Bic, on loue pas beaucoup de place. Quand on vend des télés, il en faut 5 ou 6 dans le magasin, il en faut une très grande, une moyenne, et puis 3 petites, on va dire ça comme ça. Donc ça fait quand même de la place. Quand vous retirez toute cette place-là et que vous retirez le nombre de concurrents, le bargaining power, comme on dit, en disant combien tu vas me payer la place, je te la paye pas, je suis tout seul. Où tu vas me la donner la place. Et tout d'un coup, le revenu et l'importance pour les canaux de distribution, par exemple Fnac Darty, Boulanger ou d'autres Best Buy aux États-Unis, tout d'un coup, c'est un vrai problème pour eux. Alors, on n'y pense pas forcément, mais c'est un vrai problème pour les canaux de distribution qui vont se retrouver avec des forces limitées et un espace qui va être pas forcément utilisé.
Il y a une chose dont on n'a pas parlé, je suis tout à fait d'accord avec toi, qui est un peu dans le même ordre d'idée, c'est-à-dire qu'il faut prendre en compte aussi la structure économique de la Chine. C'est-à-dire que les fabricants coréens, japonais, etc., sont plus ou moins obligés, s'ils veulent attaquer le marché chinois, de faire alliance avec des entrepreneurs chinois. On le sait, hein, c'est pas nouveau, ça marche dans toutes les industries, etc. Il arrive peut-être qu'au bout d'un moment, finalement, pour s'assurer d'avoir vraiment la majorité du marché très prometteur de la Chine, ils préfèrent finalement déléguer tout à leur associé local que de se prendre le chou à essayer de trouver des canaux différents pour
pour remplir la même office.
Et puis, il ne faut pas oublier que, c'est, je ne sais plus lequel de vous l'a dit, mais LG, bon, il continue à faire les dalles. Et puis LG, il y a tout le marché aussi maintenant des écrans dans les voitures.
Oui, absolument. Gros business.
Les écrans dans les voitures. Gros business. Les écrans professionnels aussi.
Bah, sur les smartphones aussi.
Les écrans professionnels, les écrans. Bah, voilà, il y a tout un ensemble des écrans dans les hôpitaux, tout ça. Enfin, ça fait
Et encore une fois, le réseau de distribution, parce que c'est important, mais en Afrique, c'est plein de petits magasins, hein, des magasins encore familiaux comme il y avait il y a encore 20 ans, 30 ans, 40 ans en France. Et quand on vend des télés, enfin, quand on met à disposition de ces télés, il faut se faire payer. Hein. Alors que quand on va chez les boulangers, etc., on est à peu près sûr de se faire payer. Mais y a, et donc, il y a tout un réseau de distribution, parce qu'encore une fois, parmi les 8 milliards d'individus, la majorité vivent dans ces pays-là. Eh bien, il faut maîtriser le canal de distribution, il faut pouvoir contrôler son canal de distribution. Et je peux vous assurer qu'à l'époque, quand je travaillais chez Thomson, et je travaillais sur les usines de Thomson Inde, donc à Madras, très exactement, et donc on avait ce problématique, où Vivek Badrinath, qui gérait Thomson Inde à cette époque-là, sa problématique numéro un, c'était pas de vendre des produits, hein, c'était de récupérer l'argent. C'était le cash qu'il fallait récupérer. Eh ben, les Chinois, ils sont très bons là-dedans. Ouais. Ils ont aussi cette capacité-là à faire tourner l'argent, à gérer l'argent, et voilà. Et évidemment, quand on maîtrise toute la value chain, qu'on est très flexible.
On voit que c'est beaucoup plus complexe que deux bouts de plastique avec une dalle à l'intérieur.
Non, mais c'est un marché qui est devenu beaucoup plus sur l'économie que sur la technologie.
C'est ça, absolument.
Et ben voilà, écoutez.
On peut regarder ces magnifiques images de. Ça, c'était vraiment le chef-d'œuvre de LG.
Ah ouais, ouais, ouais.
Qui était ce téléviseur signature. Ouais, qui rentrait dans un meuble et qui voilà.
Ouais,
qui
si vous êtes avec nous à la télé, c'est un meuble.
Avec une fente, ouais.
Voilà, avec une fente, et puis vous appuyez sur votre télécommande, votre télé sort comme ça, comme par magie. Elle se déroule.
C'était un écran très fin.
Incroyable, elle se déroule. Alors, ça fait 10 ans peut-être qu'ils nous ont présenté ce truc-là. Ouais. Et en fait, ils en ont vendu très peu parce que, un, je pense que ça doit être très compliqué à fabriquer. Et deux, le prix, c'était 60 000 $, je crois.
Oh, la télé. Je me demande si c'était pas plus, d'ailleurs.
Enfin, voilà, bon, donc c'était.
Mais trouver leur marché dans les bateaux de luxe.
Mais bien sûr.
Les bateaux de luxe, quand tu navigues, ça bouge. Donc, il fallait rentrer ta télé en dehors de ça. C'était compliqué.
Bon, je suis sûr qu'il y a des gens qui ont pu s'offrir ça dans leur loft au dernier étage à New York, par exemple. Ça peut
ou aux Émirats.
Ou aux Émirats aussi. Dans l'actu, on évoque aussi, eh bien, les déboires de Google et son moteur de recherche qui, depuis la Google I.O., eh bien, a un petit concurrent. Alors, c'est toujours un petit concurrent, hein, mais et on va vous raconter l'histoire, c'est assez intéressant. DuckDuckGo, je ne sais pas si vous connaissez DuckDuckGo.
DuckDuckGo.
Ben voilà.
C'est mon browser.
Moteur de recherche, browser, moteur de recherche qui prône, en fait, la sécurité des données, la vie privée, parce que, bon, enfin, voilà, il y a tout un discours hein, de DuckDuckGo là-dessus. Eh bien, DuckDuckGo a vu son... Comment dirais-je, la fréquentation de ces services exploser. Pourquoi? Eh bien, parce que Google, lors de la Google I.O., a mis en avant les fonctions IA dans le moteur de recherche de Google. Et il y a plein de gens qui ont dit, non, moi je veux pas d'IA, je retrouve pas mon Google, ça me plaît pas, eh bien, je vais aller voir ailleurs. Et alors, on se dit, bon, c'est quoi? Ça va être quelques personnes? Non, non, non. Il y a eu, alors ça a été par vague, hausse moyenne de 18% des installations d'applications DuckDuckGo aux États-Unis entre le 20 et 25, et c'est même monté à 30% le 25 mai. Et même sur iOS, donc sur les téléphones Apple, eh bien, il y a eu une explosion de téléchargement sur l'App Store de l'appli DuckDuckGo. C'est quand même étonnant. Est-ce que Google a pu avoir arrivé ce truc-là, Fred? C'est rigolo, cette histoire.
Oui, ben, on assiste peut-être à une certaine fatigue, hein, de l'IA cognitive, voilà. On
veut, et puis surtout, tu changes pas comme ça.
On veut retrouver la, on veut
un,
retrouver
un la service main. Que tu utilises depuis 20 ans, quoi.
C'est vrai que nous, on est un petit peu biaisé parce que nous, que ChatGPT est arrivé, Google Gemini, tout ça, on s'est jeté dessus. Puis peu à peu, comme ça a commencé à bien marcher, il y avait de moins en moins d'hallucinations. C'est devenu un peu notre moteur de recherche. Mais pour,
oui, mais
gens,
pour nous, mais pour la plupart des gens, c'est
voilà,
toujours
pour
Google.
Pour la plupart des gens, ça reste Google. Et c'est vrai que Google, et notamment la Google I.O., alors nous, ça nous paraît formidable. L'IA nous aide, nous guide et tout ça. Mais non, il y a encore beaucoup, beaucoup de gens qui préfèrent, bah, toi tu l'utilises, tu pourras le dire, qui préfèrent bah, avoir la liste de sites, pouvoir avoir ce cheminement. Voilà, on préfère l'avoir pour soi que pour... Que le laisser à l'IA le faire.
Alors, par rapport à ça, Frédéric, deux choses. D'abord, moi, j'utilise DuckDuckGo depuis un certain nombre d'années. Je voulais juste dire aux téléspectateurs et aux auditeurs, c'est super simple, vous l'installez, c'est super simple. Mais c'est vraiment super simple, quoi. Je veux dire, on l'installe de son App Shop, et puis on roule. Et c'est ça donne des résultats très très similaires. On n'est pas dépaysé par rapport à Google.
Oui, voilà, sur ça marche bien, c'est ça.
Il y a beaucoup moins de liens sponsorisés, ok. Et on règle toute sa vie privée. Donc on peut dire non, je veux pas de mémoire. C'est-à-dire, on peut dire je vis dans ma bulle ou j'ouvre tout. Et c'est super simple et ça marche super bien. Donc ça, déjà, je trouve que c'est je voulais juste dire ça. Deuxième chose, je pense que Google aurait dû embaucher Frédéric Simotel, parce que Frédéric Simotel, il y a déjà quelques années de ça.
Ne donne pas d'idée à Google, qui nous pique pas notre Fredo.
Je sais ce qu'il veut
dire. S'il te plaît.
À 17 ans, je veux dire, il a. Et je me souviens toujours de Frédéric, qui m'a appris ça sur cette émission, en disant il y a le moteur de search et le moteur de réponse. OK? Et ce sont deux choses différentes, ce sont deux usages différents. Il y a le couteau et la fourchette. Bon, ils ont voulu mélanger les deux. Ils ont voulu faire une espèce de couteau suisse. Eh bien, il y a des gens, ils préfèrent encore avoir le couteau et la fourchette. Et moi, je fais partie des gens qui préfèrent avoir un moteur de search et un moteur de... Voilà. Et pourquoi ? Parce que je suis un vieux de la vieille, et moi, j'ai appris un truc. Analyse, thèse, antithèse, synthèse. Qu'est-ce que c'est qu'un moteur de réponse ? On va directement à la synthèse. Nvidia, ChatGPT, Anthropic, ils vous donnent la synthèse, ils vous donnent une réponse synthétique. Mais moi, le moteur de search, il me permet de faire l'analyse. Donc, quand j'ai l'analyse, après, je fais ma thèse, je vais voir des sites contradictoires, je fais mon antithèse, puis je me fais ma synthèse, que je peux comparer, avec celle des moteurs de réponse,
ce qu'on fait beaucoup.
ce que beaucoup de gens font. Et je trouve que Google, en disant « c'est moi qui ai raison », ne réfléchis pas, prends ma synthèse à moi et quelque part oublie de laisser la liberté aux gens de faire leur propre démarche intellectuelle et de recherche, il s'est trompé. Mm-hmm. Il s'est simplement trompé. Et je trouve que c'est sain de voir que le public, il dit tu sais quoi ? Moi, si je veux aller à tel endroit, j'ai pas envie d'y
c'est
aller
moi
par ton chemin.
C'est moi le patron.
Ouais. Alors, je regarde ta route, je regarde ton chemin, mais chacun sa route, chacun son chemin, comme dit l'autre. Hein. Et moi, je vais passer par le mien, et le tien est intéressant, il m'aide, mais je veux quand même avoir ma liberté.
Ouais.
Et c'est vrai que cette réaction me paraît très saine.
Alors, un porte-parole de Google a dit qu'on pouvait désactiver ça, que c'était pas, évidemment, scellé dans le marbre, etc., etc. Mais en fait, voilà, les gens ne s'embêtent même pas à modifier les paramètres, quoi. Quand ils voient que leur interface a changé, ils vont ailleurs.
La grosse erreur de Google, enfin, il y a deux choses. D'abord, on ne sait pas s'il n'y a pas d'hallucination dans les réponses, alors que l'avantage de Google, c'est qu'il n'y a pas d'hallucination. Enfin, le Google classique, il n'y a pas d'hallucination, il nous donne des sites. Alors que là, s'il nous donne la réponse directement, je veux dire, on a un esprit critique qui va s'éveiller automatiquement.
Ouais. On a l'impression que le web est moins ouvert, il nous dirige.
Oui, c'est ça. En plus, quels sont ses biais ? Pourquoi est-ce qu'il choisit ça plutôt qu'autre chose, etc. Alors que les algorithmes de recherche, on les connaît. Et puis, il y a une entrave au principe de monétisation des sites web. C'est quand même scandaleux. Il va chercher l'information directement, il ramène les résultats, ce qui évite à l'internaute d'aller visiter les sites et donc de les monétiser. C'est pas très cool pour les sites qui ne vivent que de cette monétisation. Puis, je voudrais faire remarquer une chose, c'est qu'ils ont loupé le coche, Google. Ils auraient dû faire ça en 2024, en 2023 même, à l'époque où Perplexity commençait à sortir des nimbes, parce que vraiment, Perplexity, c'est ce qu'on attendait à l'époque de Google, c'est-à-dire je pose ma question, il me donne les réponses avec les liens qui me permettent de trouver la source de l'information. Voilà. Et là, ils arrivent donc 4 ans trop tard.
Oui. Mais en même temps, Google devait réagir, parce que Google aujourd'hui, c'était l'interface, c'était notre entrée sur... Parfois, tu avais des gens qui disaient, j'ai plus Internet. En fait, ils avaient toujours Internet, puis il y avait juste que Google avait planté. Non mais on a déjà vu ça. Et peu à peu, ils se sont rendus compte de quoi ? Qu'aujourd'hui, il y a des gens qui rentrent par YouTube, il y a des gens qui rentrent par Reddit, il y a des gens qui rentrent par TikTok. Enfin, le point d'entrée, c'est plus Google. Donc Google devait réagir. Donc ils se sont dit, c'est le meilleur moyen, c'est de mettre justement moteur de réponse, moteur de recherche en même temps. Et puis là, on va plus le vérifier. Mais ils n'ont pas vu ce côté.
Ça perturbe les habitudes des gens.
D'ailleurs, DuckDuckGo
propose un mode avec IA.
Mais on peut le désactiver facilement.
C'est qu'il faut vraiment le choisir.
Il faut vraiment le choisir. Et voilà, ouais. C'est ça.
Et moi, il y a une chose qui est importante par rapport à ce que tu viens de dire, et je suis 100% d'accord avec toi. Si on ne fait que des moteurs de réponse, on tue le web.
Bah, c'est clair.
On tue l'Internet.
Ouais. Déjà, les applications ont fait beaucoup de mal.
Les applications ont fait beaucoup de mal. Et je dis à tous ceux qui nous écoutent, attention, vous avez une responsabilité dans la survie, dans le mode de survie d'Internet. Et l'Internet, c'est quand même une liberté extraordinaire de penser, de réfléchir, d'avoir accès à l'information. Et si on tue ça, et je trouve que la réaction, encore une fois, est très saine des Américains d'Alice Evok-Dogbo, parce que c'est pas anodin hein, ce qui est en train de se passer.
Attention les amis, grosse actu qui vient de tomber. Vous êtes prêts ?
On est prêts.
Là, on tutoie, on va dire, des sommets en termes de valorisation. Entropy qui vient d'annoncer lever 65 milliards de dollars. C'est tombé il y a quelques minutes. Et frôle donc les 1000 milliards de valorisation. Donc dépasse OpenAI. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Anthropic est devant OpenAI en termes de valorisation.
On avait senti venir quand même. Hein.
Ouais, c'est clair.
OpenAI était un peu en difficulté.
Il parlait de 30 milliards. Hein. Au début, c'était 30 milliards.
Et mais là, c'est 65 milliards. Là, c'est 65 milliards. Incroyable quand même.
Il y a eu un renversement de tendance d'un seul coup entre les deux boîtes qui est assez phénoménal.
J'apprends la nouvelle en direct. Bon, enfin, comme tout le monde, on est en direct, donc la preuve, c'est qu'on est en direct. Okay. Et ça rejoint tout à fait ce qu'on disait au tout départ avec Mistral, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour continuer à grandir, il faut lever de l'argent, c'est-à-dire, et donc aller voir, se mettre sur le marché, 65 milliards en l'occurrence. Les 65 milliards, qui c'est qui les donne ? C'est nous. Soit on les donne parce qu'on les donne directement parce qu'on achète des actions, soit on les donne parce qu'on a des assurances vie, soit on les donne d'une manière ou d'une autre. Mmh. Mais ce qu'on est en train de voir, c'est que ces entreprises-là, pour grossir, ne sont pas ce qu'on appelle sustainable, c'est-à-dire ne sont pas capables de vivre en autonomie. Elles sont obligées de faire appel au marché. Et donc, le système tel qu'il est fait, il ne peut pas tenir. Donc, on est en train de monter dans des sommes colossales et il ne peut pas tenir. Alors, je faisais une blague sur la bulle de tout à l'heure. C'était peut-être pas forcément très respectueuse, mais je m'en excuse. Il n'y avait pas de vocation de provoquer qui que ce soit, bien entendu. Okay, mais ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un problème économique. Et donc, il va falloir que quelqu'un paye. Donc, soit on fait payer par le marché, soit on fait payer par l'utilisateur, et à un moment, on fera payer par les deux.
Mmh. Alors, je ne sais pas si tu as suivi, Fred, parce qu'on a des infos qui tombent. Anthropic dit avoir signé des accords jusqu'à 5 gigawatts de capacité avec Amazon. 5 gigawatts de TPU. Donc, en fait, ils sont... Et c'est rigolo parce que ça rejoint la stratégie de Mistral, finalement. Mais... échelle, je ne sais pas combien, non, fois 10.
C'est ce que je voulais dire. Je veux dire, ces investissements-là, on est en train de partir vers une bataille d'infrastructures. On est vraiment parti dans ce domaine-là.
Oui.
Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on a ces agents qui se démultiplient à longueur. Et ces agents, bah, c'est comme des collaborateurs. Enfin, il va falloir leur donner de la puissance calcul. Il va falloir les héberger. Il va falloir tout ça. Et là, je pense que là, c'est un gros coup. Alors, ça va être derrière de l'achat de la GPU, de l'achat de TPU, de l'achat. Et on est en train vraiment de basculer vers une bataille d'infrastructures. Là, on parlait d'un monde du logiciel. On est bien.
D'ailleurs, je pense que tous les auditeurs qui suivent BFM Business depuis au moins 3 ans savent que c'est une bataille d'infrastructures. On en a parlé 1000 fois. Et je crois, pour être tout à fait honnête, que BFM Business ou Tech & Co. a vraiment été les premiers à soulever ce point-là en disant « Mais attendez, le LLM, c'est secondaire par rapport à l'infrastructure. Nous sommes dans une bataille d'infrastructures. » Et où je suis, moi, absolument étonné et choqué, parce que l'infrastructure, c'est l'État. C'est de la régulation,
c'est ce que tu disais dès le départ, okay, en fait. Il fallait que ce soit une décision de l'État.
Mais bien entendu, et l'État et nos politiques rentrent en campagne en 2027.
C'est ce que fait la Chine, d'ailleurs, non ?
C'est ce que fait la Chine avec ses plans quinquennaux, etc. Nous rentrons en campagne électorale en 2027. Vous avez, vous, entendu quelqu'un qui vous parle du programme politique de la gestion de l'infrastructure et de l'énergie en France ?
Vous avez vu l'audition d'Arthur Mensch ?
Personne.
Vous avez vu l'audition d'Arthur Mensch au Sénat ? Il n'y avait personne.
Donc, soit
et le seul gars qui avait à poser des questions qui étaient lunaires, oui, qui n'avaient rien à voir avec le sujet.
Ouais, on a un problème vraiment de compétences.
Et en fait, il disait, oui, vous rendez compte, vous allez vous installer sur un terrain, mais est-ce que vous avez pensé aux répercussions écologiques, etc.
Mais même, il y a une écologiste qui dit, à un moment, il se trompe dans les chiffres. Voilà, il parle en trillions, en billions, enfin voilà, parce qu'il confondait, mais on avait compris l'esprit.
Bien sûr.
Et elle a dit, regardez, il a essayé de nous avoir, il a parlé de chiffres complètement. Oui. Elle est partie là-dessus, alors qu'il était. En plus, il est hyper clair. Et puis, on voit bien un moment, parce que billion en français, en anglais,
sûr,
voilà,
ouais,
c'est pas les mêmes. Et puis, il se reprend d'ailleurs. Et elle, tout de suite, elle part sur regardez, il nous cache des choses, c'est pas les vrais. Par contre, le truc a été vu des millions de fois, et ça, c'est une bonne chose.
Oui, c'est vrai. Et espérons qu'il y ait un électrochoc de la part du futur présidentiable. Et des équipes qui seront autour de lui pour qu'on prenne vraiment ce sujet à bras le corps. On est prêt à les aider, hein. On est prêt à leur expliquer, sans aucun souci, humblement. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Yves.
Bonsoir.
Yves Maître. Merci à Didier Sens.
Merci à toi.
Fred. On se retrouve la semaine prochaine.
Bah oui, encore, bah on reparlera de ces 65 voilà. milliards.
Ne bronze pas trop à Roland-Garros ce week-end, s'il te plaît.
Non, je vais en Bretagne. Ah. Je vais bronzer aussi en Bretagne.
On bronze en Bretagne.
Ah, bah oui.
On apprend des trucs.
Hey, il doit habiter à côté d'un data center, à mon avis. Ça chauffe.
Bon, allez, vous restez avec
prenez
nous.
Prenez vos réservations, parce que vous verrez la température dans 20 ans.
Vous restez avec nous dans un instant, interview exceptionnelle de Timothée Lacroix. Timothée Lacroix, c'est l'un des cofondateurs de Mistral, justement. On va évoquer avec lui eh bien, toute l'actualité de Mistral du jour, mais aussi on essaiera de prendre un peu de recul concernant toute la stratégie IA menée par Mistral, avec cette notion de souveraineté aussi qui est importante. Petite pause, interview donc Mistral juste après ceci.
Tech & Co, la quotidienne, l'invité.
Tech & Co, la quotidienne, comme promis, pour terminer en beauté cette semaine, nous allons eh bien, nous pencher sur notre fierté nationale dans le domaine de l'IA, notre pépite IA. Il s'agit de Mistral, avec cette interview eh bien, d'un des porte-parole de Mistral qui est avec nous, c'est Timothée Lacroix. Je vous rappelle que nous sommes ici à l'AI Now Summit qui a eu lieu aujourd'hui. Timothée Lacroix, bonsoir.
Bonsoir.
Et merci de nous accorder votre temps, parce que c'est vrai que c'est une journée compliquée pour les trois cofondateurs de Mistral et pour toute l'équipe de Mistral. D'abord, peut-être un mot sur votre poste chez Mistral. Vous êtes CTO, vous êtes en quelque sorte le patron de la technologie, des modèles. Vous êtes l'un des trois cofondateurs de Mistral. Avant de rentrer rentrer dans le détail de cet événement, peut-être un mot sur l'histoire de Mistral. 3 ans à peine, vous êtes aujourd'hui un acteur incontournable dans le domaine de l'IA. Comment vous est venue cette idée de créer Mistral, sachant que vous venez de chez Meta, je crois, hein, et de faire.
C'est ça. Donc, il y a 3 ans, donc, je connais Arthur et Guillaume depuis plus de 10 ans.
D'accord.
Je connais Arthur depuis mes études et j'ai travaillé avec Guillaume à Meta pendant plus de 6 ans. On avait besoin d'entraîner des modèles dans le cadre de notre travail avec Guillaume. Et Guillaume et Arthur se sont aussi rencontrés au moment où l'IA a vraiment pris son vol.
Ouais.
On avait envie de faire quelque chose à nous.
On est en quelle année ? On est en
2023.
2023,
2023,
d'accord.
Donc même décembre 2022. Et donc, on se dit, bah, finalement, pourquoi chercher des startups compliquées quand on pourrait appliquer ce qu'on sait faire, qui est entraîner des modèles. C'était ce qu'on savait faire tous les trois. Et donc, on a lancé Mistral.
Alors, la légende dit que c'est vous qui avez trouvé le nom Mistral. C'est vrai ou pas ?
C'est vrai. Il se trouve que c'est pas très original comme nom. On le partage avec pas mal d'équipements militaires, pas mal d'ascenseurs et pas mal de boîtes de logistique. Mais effectivement, après 2 jours à tergiverser sur des noms, j'ai tranché.
D'accord. Parce qu'il y a aussi I et A dans Mistral. C'est un rapport ou c'est le hasard ?
Un heureux hasard.
Le hasard, voilà. Ok.
On a vérifié que c'était un nom qui était compréhensible en anglais, qui se prononçait en anglais. On a confirmé que ça sonnait pas trop bizarre et ensuite on s'est dit on y a assez passé de temps.
Que de choses sont passées durant ces 3 ans. C'est incroyable. Quelles sont pour vous les dates importantes de Mistral ? Alors évidemment, il y a les levées, etc. Il y a l'argent. On va y revenir parce que c'est très important dans le job que vous faites, dans l'activité que vous avez. Quelles sont les dates, les checkpoints importants de Mistral sur ces 3 ans, à votre avis ?
Alors évidemment, le début. On a effectivement annoncé la levée et surtout, on a eu la confirmation des premiers employés qu'ils allaient nous rejoindre et qu'on pouvait commencer à travailler. Bon, ça, c'est effectivement un moment fort. Les premiers modèles qu'on a sortis avec des façons de déployer des modèles sur Internet un petit peu originales à travers des liens torrent, c'était un pari. On ne savait pas du tout ce qui allait se passer. Il y avait une véritable ébullition au niveau de l'équipe. C'était des nuits courtes. Donc le fait que c'était un succès immédiat, c'était effectivement des moments forts.
Parlait pas encore de ChatGPT à l'époque.
On en parlait.
On en parlait à l'époque. ChatGPT, c'était 2023.
C'était fin 2022, début 2023.
Donc ouais. Vous avez lancé.
On était 6 mois après.
Voilà, c'est ça.
Et c'est vrai qu'en fait, ces premiers modèles open source commençaient à être comparables en termes de ce qu'on pouvait faire sur des cas simples avec ChatGPT. Donc c'était la comparaison, c'était open source, n'importe qui pouvait l'utiliser. Donc ça, c'était effectivement un moment fort. Ouais. Après, quand l'entreprise grossit, c'est des moments différents. C'est par exemple des releases de modèles comme la voix, une nouvelle modalité, c'est toujours intéressant. On peut faire soudainement beaucoup plus de choses. Et là, effectivement, des grands événements comme ça, où on commence à cumuler de plus en plus d'annonces, des beaux partenariats, ça devient important aussi.
Alors, on va revenir évidemment sur les Now Summit que vous animez aujourd'hui. Mais vous êtes CTO. Quel est votre job, en fait, chez Mistral ?
Alors c'est évidemment un job qui a pas mal changé au cours des trois dernières années. La séparation des fonctions entre Guillaume, Arthur et moi était assez facile parce que la séparation science et technique était déjà une séparation qu'on avait un peu à méta avec Guillaume.
D'accord.
On travaillait tous les deux sur des modèles, mais j'étais plus intéressé par la machine qui nous permettait d'être efficace, d'avancer. Et donc j'ai pris la direction de ces équipes techniques. Les équipes techniques à Mistral, je les considère en quatre grandes sections et j'en gère directement trois. Donc il y a le produit, donc Vibe, Studio, tout ce qui permet de servir nos modèles et de les déployer. Il y a aussi l'infrastructure de la recherche qui est le monde d'où je viens, donc tout ce qui permet aux chercheurs de faire leur travail et d'être de plus en plus efficaces avec une équipe qui grandit. Il y a aussi les Forward Deployed Engineers, donc les personnes qu'on va emmener chez nos clients et qui sont des ingénieurs mais qui font le last mile d'adaptation. Ouais,
parce que c'est votre particularité, on pourra peut-être en parler.
Exactement.
Par rapport aux géants OpenAI, etc., où on achète des choses sur étagère. Vous, c'est du fine tuning, c'est la joaillerie. Vous vous adaptez en fait à chaque entreprise, mais on aura peut-être l'occasion d'en reparler.
C'est ça. Et récemment, il y a aussi le volet infrastructure et data center qui s'est rajouté.
Vous êtes l'un des plus discrets des trois. C'est une volonté, c'est votre personnalité. Bon, déjà, merci d'avoir pris le temps pour qu'on puisse vous découvrir un peu plus longuement.
Je dirais que ça fait largement partie de ma personnalité et c'est vrai que ça me permet aussi d'avoir plus de temps pour faire mon travail tranquillement.
D'accord.
Y a beaucoup d'équipes à gérer, beaucoup de choses à faire. Donc.
Très bien. Alors, un mot quand même sur ce AI Now Summit qui est le premier. Ça va devenir un rendez-vous récurrent en fait, cet événement.
Alors on espère, j'imagine en voyant la salle que c'est un succès et il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas un cycle d'annonces un peu annuel comme ça.
D'accord.
Avec des nouvelles technologies. C'est un peu classique. Oui. Dans la tech d'avoir, ouais, son rendez-vous annuel où on fait nos annonces pour les développeurs, pour les partenaires industriels, tout le monde peut se rencontrer, c'est classique.
Donc l'idée là, on voit, il y a énormément de monde. Ce soit quoi ? C'est vos partenaires qui sont là ?
Alors,
il y a des journalistes aussi, bien sûr. J'en ai vu quelques-uns.
Le but, c'est aussi d'animer un écosystème.
D'accord.
Donc, il y a nos clients, il y a nos utilisateurs et il y a aussi tout l'écosystème de l'AI en France et en Europe. Nos partenaires commerciaux aussi qui nous fournissent du matériel, qui peuvent venir interagir, réagir à nos annonces, parler.
Vous avez annoncé pas mal de partenariats prestigieux avec des industries européennes, parce qu'on sent que l'IA à l'industrie, c'est un gros message que vous voulez faire passer lors de ce AI Now Summit. EDF, Airbus, BMW, alors des entreprises européennes, hein, des pépites. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous créez ces partenariats avec ces boîtes-là ? Peut-être nous donner des exemples aussi d'intégration d'IA, par exemple chez Airbus ou BMW ou EDF ?
Donc, comment on crée ces partenariats ? C'est des longues discussions de relations commerciales, mais on commence toujours par des proof of concept. Donc, on va s'intégrer dans leurs équipes, ouais, on va passer beaucoup de temps à comprendre leur business. Airbus, c'est quand même une énorme organisation, il faut comprendre quels sont leurs problèmes, qu'est-ce qu'on peut montrer comme valeur. Une fois qu'on a fait ça, donc on fait un pilote, si ça se passe bien, et dans le cas d'Airbus, ça s'est bien passé, et ben on commence à travailler sur un partenariat beaucoup plus long terme. C'est des partenariats qui sont fantastiques pour nous parce que ça nous permet de nous projeter sur du temps long, ça nous permet d'engager des projets beaucoup plus ambitieux, de co-développer des produits, et donc ça nous permet beaucoup de choses. Des exemples, alors, dans le monde industriel, surtout dans des entreprises grosses comme Airbus, il y a un des sujets qui est la documentation technique. Faut imaginer des documents qui décrivent les tailles des boulons
et qui représentent des téraoctets de données
et aussi une quantité de travail humain fou,
illisible,
parce que avec à chaque fois que quelqu'un fait un changement, il faut aller vérifier dans tout le reste de la documentation que ce changement est bien reproduit, qu'il est bien compatible, que tout reste compliant.
Surtout donc, dans une industrie comme Airbus qui est hyper réglementée, où les normes de sécurité sont dingues.
Heureusement.
Ouais, heureusement d'ailleurs. Ouais.
Et donc là, c'est un des cas d'application un peu évident où on peut automatiser une partie de la recherche, on peut raccourcir cette chaîne et trouver immédiatement toutes les implications de ce changement.
En gros, je veux le boulon 26, enfin, ou savoir quelle est son évolution, etc. Je vais avoir une espèce d'interface.
Voilà.
simple.
Exactement, et on essaie de s'intégrer aux outils d'Airbus parce qu'en fait, on arrive, il y a un écosystème, c'est une boîte qui a déjà un IT installé avec plein de choses. On veut s'intégrer au plus proche pour qu'ils soient capables, vraiment, quand ils font un changement, d'avoir naturellement toute la suite et les implications, est-ce que ça marche, pourquoi, et produire la prochaine documentation.
EDF, pareil, enfin.
Alors, EDF, je pense que ça va dépendre pas mal de ce qu'on fait avec eux. Ouais. De ce que j'imagine, il y a aussi des documentations techniques sur lesquelles ça sera utile. Après, il faut aussi voir que là, je parle des sujets techniques et vraiment industriels. Mmh. C'est les sujets qui ont tendance à m'intéresser. Il y a en fait dans toutes ces grandes organisations, une énorme partie corporate et juste comprendre où en est la boîte, comment évolue le partage de la connaissance sur lequel les outils d'IA sont quand même toujours efficaces.
Alors, CMA-CGM aussi, qui est d'ailleurs le propriétaire de BFM Business. Il y en a d'autres. Un BMW, tiens. Un constructeur auto. Quel type de partenariat vous nouez avec eux ? C'est toujours là aussi de la documentation ou c'est autre chose ?
Avec BMW, il y a un nouveau volet que je trouve très intéressant qui vient avec l'acquisition de EMI AI, qui est de la simulation de car crash. Et donc ça, on est vraiment dans... augmenter la vitesse d'itération des ingénieurs. Un ingénieur qui change une porte sur une voiture, il va devoir ensuite faire tourner des simulations pour vérifier que ça n'impacte pas la sécurité.
Pour voir comment elle va
se déformer au cours
d'un crash test.
Ce que permet EMI, c'est de largement raccourcir le travail entre la phase de design où on dessine la nouvelle porte, on l'intègre dans le reste.
D'accord.
Et le résultat de la simulation du car crash.
C'est-à-dire que vous simulez finalement le crash avant de l'implémenter dans la voiture ou
alors,
essayer
ça,
de comprendre comment elle va évoluer.
Ça, ils le font dans tous les cas. Par contre, ça peut être des simulations qui sont très longues. Donc, d'abord, il y a le dessin industriel. Ensuite, il faut réimplémenter le dessin industriel un peu différemment pour les logiciels de simulation. Et parfois, c'est du travail compliqué. Et ensuite, on fait tourner une simulation qui peut être très intensive en calcul. On peut raccourcir toute cette chaîne et arriver à une simulation qui sera peut-être moins précise, mais qui va permettre d'itérer beaucoup plus vite. Une fois qu'on a trouvé quelque chose qui a l'air bien, on peut faire tourner la vraie simulation et avoir une voiture qui soit sécuritaire.
Intéressant tout ça. Comment ça se passe quand vous travaillez avec BMW, Airbus ? Vous détachez des équipes de Mistral qui vont bosser là-bas ? Comment ça se passe ?
C'est ça, donc c'est un modèle qu'on appelle Forward Deployed Engineers. On a tout un département qui est proche du département commercial et proche des équipes engineering. C'est des experts de l'application de l'IA, donc il y a plein de domaines. Il y a le déploiement de l'IA qui est plutôt un problème d'infrastructure. L'expertise de savoir dans un domaine comme ceux de BMW, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et aussi des experts même plus scientifiques sur l'entraînement de modèles. On va vraiment les intégrer selon les projets avec les clients. Ils vont travailler avec leurs équipes, ils vont les éduquer et le but à terme, c'est vraiment de passer un peu la main sur tous nos outils à ces entreprises pour qu'elles puissent en prendre le contrôle.
Voilà, et puis qu'après elles n'aient plus besoin de vous finalement.
C'est ça
hein. C'est intéressant tout ça.
Et c'est toute une chaîne entre nous, nos FDI, ensuite ça peut être des intégrateurs système et ensuite nos clients.
Un mot aussi sur le message ambiant qu'on a entendu pendant très longtemps que l'IA allait être destructrice d'emplois. On peut rebondir peut-être sur le sujet qu'on évoquait à l'instant, c'est-à-dire que finalement, peut-être que des ingénieurs qui travaillaient sur la simulation de crash, etc., feront peut-être autre chose ou n'auront plus de métier parce que l'IA va peut-être les remplacer. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'on se rend compte qu'il y a un changement de paradigme. Il y a encore quelques mois de cela, que ce soit Arthur Munch, le cofondateur de Mistral, mais aussi Sam Altman ou le patron de Google, disait qu'effectivement, il y allait avoir de la casse au niveau social, au niveau des emplois, à cause ou grâce à l'IA. On a l'impression qu'il y a une machine arrière qui est faite. Même Arthur Munch l'a dit récemment. Sam Altman l'a dit il n'y a pas plus tard qu'il y a quelques jours, que finalement, ça n'est pas allé aussi vite que ça. Qu'est-ce qui a fait que, à votre avis, il y a eu ce changement de vision ?
Alors,
est-ce que ce n'est pas aussi pour faire peur, pour moins faire peur aux gens ?
Alors, l'IA, c'est un nouvel outil. Avec tout nouvel outil, c'est aussi un outil qui change très vite. Avec tous les nouveaux outils, il y a certains métiers qui changent, il y a des adaptations à faire. C'est un changement qu'on a beaucoup vu dans le domaine du software. Je pense que c'est intéressant de prendre le domaine du software pour avoir un peu une vision 6 mois ou 1 an en avance de comment, qu'est-ce qui peut se passer dans d'autres métiers. On est passé d'un métier d'artisan où vraiment on connaissait chaque ligne de code, on écrivait chaque caractère, à plus un métier de manager où on commence à poser des questions et ensuite essayer de comprendre si le travail était bien fait. C'est quelque chose qui peut se reproduire dans plein d'autres domaines, typiquement sur des simulations de crash. Ben, au lieu d'avoir vraiment tout le travail de chaque étape, on va plutôt guider les systèmes et on va pouvoir revoir le travail de plein d'agents. L'idée, c'est d'aller plus vite.
D'accord. Mais concernant ma question sur le fait que l'IA peut être destructrice d'emplois et que finalement, les porte-parole de toutes ces grandes boîtes IA, Arthur Mensch y compris, reviennent sur cette décision en disant que bah, finalement, on a été un peu trop pessimiste, ça ne va pas aller assez vite. Quel est votre... Enfin, ça ne va pas aller aussi vite que ça. Mais et vous, votre point de vue, alors, en tant que CTO de cette boîte?
C'est toujours très difficile de donner des estimations précises de temps sur les changements. Ça va beaucoup dépendre des métiers.
Mais pour vous, il y aura un impact majeur ou pas?
Ça va vraiment dépendre des métiers. Typiquement, des métiers manuels, il va y avoir un besoin que le hardware soit là, que des robots arrivent. Il y aura des questions de rentabilité aussi. En fait, si les calculs coûtent plus cher qu'un employé, il n'y aura pas de raison d'en placer. Donc, selon les tâches, ça va changer. Moi, le métier de développeur aujourd'hui a complètement changé.
Parce qu'on disait, les cols blancs vont disparaître, etc. Il y a eu d'ailleurs des boîtes majeures qui ont décidé de se séparer de centaines de personnes et qui finalement, après, ont fait machine arrière. Il n'y a pas eu une espèce d'emballement, à votre avis, concernant ce sujet?
Alors, d'emballement, je ne sais pas.
Ou de précipitation, peut-être.
Alors, précipitation, peut-être. C'est toujours, encore une fois, quand on fait des annonces comme ça sur le futur d'une technologie qui change aussi vite, moi, je trouve ça toujours risqué. Surtout que la mise en place de ces technologies dans les entreprises, en fait, se heurte à plein de choses que les gens ne comprennent pas nécessairement. Il y a plein de notions de droit d'installation dans les systèmes qui, c'est pas des blocages techniques. Par contre, ça ralentit l'adoption et ça fait que, certes, les systèmes pourraient faire plein de choses, mais ça va prendre du temps de les intégrer. Et donc, il y a un disconnect énorme entre ce qu'on voit qu'on peut faire en laboratoire et ensuite le temps d'adaptation dans l'entreprise.
J'aimerais qu'on revienne et qu'on prenne un peu de recul sur votre activité et sur les besoins que vous avez aujourd'hui. On a bien compris qu'aujourd'hui, votre besoin principal, c'est l'électricité, c'est l'énergie. Mmh. On est d'accord. C'est ce qu'Arthur Mensch a expliqué lors de son audition à l'Assemblée nationale il y a quelques jours de cela, en proposant un électrochoc un peu à l'opinion publique, finalement, en disant, si on veut avoir un vrai savoir-faire souverain et ne pas se faire manger par les Américains, il va falloir qu'on ait de l'énergie, de l'électricité. C'est ça la clé, en fait?
C'est la ressource clé pour nous. Alors, ce n'est pas la seule ressource clé.
Après, il y a les processeurs, bien évidemment, il y a les talents.
Donc, il y a toute une chaîne de valeur pour arriver à de la capacité de calcul. Cette chaîne de valeur, elle commence par l'électricité et le site, avec des contraintes en utilisation d'eau, avec les voisinages et toutes les contraintes qu'on connaît. Oui. Il y a ensuite toutes les fournitures à l'intérieur du data center avec potentiellement des contraintes de supply chain sur la mémoire, comme on a vu récemment. Il peut y avoir des tensions sur la chaîne électrique. Tout le domaine, vu la croissance extrêmement rapide, toute la chaîne logistique du domaine est en tension. La chance qu'on a en Europe...
C'est le cas de le dire, en tension.
Exactement. La chance qu'on a en Europe, c'est qu'on a en France une grille qui est extrêmement stable et extrêmement bas carbone. On a dans les pays nordiques...
Le surplus énergétique en plus.
Voilà. Et donc, c'est un endroit complètement naturel où nous installer.
Mais malgré tout, si on fait des projections, il va falloir qu'on investisse dans la production d'énergie encore aujourd'hui.
Alors, qui étaient des plans qui étaient déjà prévus pour la réindustrialisation de la France. Et effectivement, l'accélération un peu imprévue du domaine de l'IA ça précipite ça. Donc, le renforcement de la grille européenne était déjà prévu et effectivement, il va falloir accélérer.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, votre demande, c'est au pouvoir public d'investir dans des infrastructures pour créer de l'énergie, c'est ça ?
Alors, il y a ça, en fait, c'est surtout un changement de façon de penser. L'énergie en Europe est une ressource stratégique. Il faut réfléchir à son allocation. Qui l'utilise, pour quels usages et à qui ça profite ?
On est paré pour ça, à votre avis ? Parce que là, le calendrier, malgré tout, est assez serré, non ? Enfin, quand on voit le temps qu'il faut pour sortir de terre une centrale nucléaire, on a des exemples qui sont quand même assez lourds en France. Comment peut-on faire, en fait ?
Alors, sur nous, notre plan de développement de data center en Europe, je ne suis pas trop inquiet. Et après, on peut aussi sortir d'Europe pour développer des data centers. On verra un peu où la croissance nous mène.
J'aimerais qu'on parle maintenant un petit peu de souveraineté, parce que, évidemment, c'est un sujet un peu tarte à la crème, mais qui, dans ce contexte économique, géopolitique, de tension internationale, prend tout son sens, et vous en êtes un acteur important. J'aimerais aussi qu'on parle d'argent, parce que même si vous levez des milliards, en France, l'échelle, c'est des milliards, aux États-Unis, c'est des centaines de milliards. Comment faire, en fait ? Est-ce que, malgré tout, Mistral va être assez puissant pour ne pas se faire absorber par les géants américains qui ont des crédits quasiment infinis ? Quelle est la stratégie ? Est-ce que vous êtes plutôt rassuré sur ce qui va se passer ? Ou est-ce qu'il faut être vigilant, quand même ?
Alors, je suis quelqu'un d'un naturel assez, assez détendu. Je pense que ça demande aussi un peu ce côté-là de vivre une telle aventure.
Mais on est d'accord que les échelles sont gigantesques, en
les
fait.
Les échelles sont gigantesques. Après, elles l'ont toujours été. Je trouve qu'on a fait un excellent travail et qu'on continue, en fait, de faire un excellent travail avec les ressources qu'on a. On progresse à une vitesse qui est différente parce qu'on s'adresse aussi à un monde différent. On s'adresse vraiment au monde de l'entreprise. C'est des partenariats qui mettent du temps à mettre en place, qui sont beaucoup plus stables. Et donc, on suit cette croissance. Aujourd'hui, je ne me sens pas limité ou inquiété par les gens américains. Ils font ce qu'ils font, ils font des choses très bien. Mais on fait nos choses à nous. Le partenariat avec EMI le montre. Il y a plein d'endroits où on peut innover. Donc typiquement sur EMI, on est devant sur des modèles de langue, d'audio ou d'OCR. Il y a encore plein de zones où on est meilleur et on se développe à la vitesse qu'on a.
L'argent, ce n'est pas le seul moteur, en fait ?
L'argent est un des moteurs très très importants.
Mais est-ce que, par exemple, c'est vrai que souvent on dit on a les meilleurs ingénieurs IA en France parce qu'il y a une culture, des mathématiques, etc., etc. Est-ce que ça suffit, en fait, pour dire, bah, écoutez, on a les talents, on a besoin de moins d'argent pour être comparable à ce que font les Américains, ou pas ?
Alors, si j'avais une baguette magique qui me donnait les mêmes ressources que nos compétiteurs américains, je serais très content de le faire, évidemment. Par contre, je pense que ce qu'on a réussi à faire et la force de Mistral, c'est qu'on a eu un timing un peu parfait. Effectivement, on a les bonnes ressources, les bonnes compétences en Europe. On a réussi aussi à motiver d'autres personnes sur notre stratégie de Palo Alto jusqu'à Singapour. Donc, il y a un véritable engouement. On n'est pas très loin en termes de temps derrière les Américains, et en fait ce delta de temps nous permet aussi d'être beaucoup beaucoup plus efficaces, et ça nous force un peu à nous concentrer sur la rigueur et à ne pas faire d'erreur.
On sent aussi, alors vous avez toujours été très B2B, mais il y a un virage B2B très fort. OpenAI aujourd'hui est une entreprise qui sert le B2B, mais aussi qui est très grand public de par l'adoption par des millions, des centaines de millions de gens de ChatGPT. Cette bataille est perdue, c'est pas la peine d'y aller. Alors, il y a le chat, bien évidemment, mais qui est beaucoup moins utilisé.
Alors, le chat qu'on a changé en Vibe.
Oui, en Vibe.
Qui, pour moi, est très utile. C'est important pour nous de garder les deux facettes.
Mais on est d'accord quand même que c'est une petite partie de votre offre.
Oui. Nous, on a très vite été vraiment concentrés sur les entreprises. Par contre, le fait d'avoir un produit qui soit pour les consommateurs directement, ça nous force à avoir une beaucoup plus grande qualité de produit, ça nous permet d'itérer beaucoup plus vite, ça nous permet
ça
d'avoir
vous challenge,
des retours.
En fait, c'est
exactement.
Ça d'accord.
Et on a un produit qui est de qualité tout à fait comparable, que moi j'utilise au quotidien sans problème.
Et qui est tout à fait correct par rapport à ce que font les... Vous allez voir un peu ce que font en tant que CTO, j'imagine. Allez voir Claude, ChatGPT, etc., Gemini.
Alors oui, je vais voir. Et c'est vrai que sur mon téléphone, moi j'utilise le chat qu'on va devoir renommer. Et je ne m'en plains pas, ça fonctionne très bien.
L'idée aussi, c'est qu'on a l'impression que Mistral veut être une société qui englobe non pas que l'IA, mais toute la structure derrière, qui soit full stack. C'est ce qui a été annoncé d'ailleurs là aujourd'hui, le message d'Arthur Mensch et de vous-même. Ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous voulez être un fournisseur de tous les maillons de la chaîne de l'intelligence artificielle?
Exactement, et ça rejoint un peu le côté souverain qui est presque un à côté. En fait, ce qui était important pour nous, c'était de donner le choix. Et en fait, le choix, quand on pense à toute la chaîne de valeur de l'IA, donc du data center à l'application finale, c'est effectivement... Est-ce qu'on peut être sur une infrastructure souveraine? Est-ce qu'on peut être dans le cloud? Est-ce qu'on peut être on-prem sur nos propres machines? Ça, c'est un choix qu'on donne. Et c'est un choix qui est plus facile à donner une fois que nous, on fait aussi une partie de ce travail. Donc, avec les data centers, on complète l'offre de choix qu'on avait pour savoir quelle brique déployer où et comment.
Donc,
et on est les seuls à faire ça.
C'est quoi? C'est l'idée, c'est d'être totalement autonome sur ce segment de l'IA.
Sur, je dirais, tous les segments de l'IA. En fait, on donne à nos clients le choix total du contrôle et de la customisation dont ils ont besoin. Et c'est aussi pour ça que le produit est plus compliqué, parce qu'il y a beaucoup de choix à faire, beaucoup de variations possibles. Et c'est là qu'interviennent aussi nos Forward Deployed Engineers.
Un mot sur la robotique. On l'a évoqué brièvement. C'est incroyable ce qui est en train de se passer. Est-ce que l'aventure robotique est importante chez Mistral?
Alors, je pense que les partenariats d'aujourd'hui le montrent. En fait, dès qu'on commence à parler au manufacturing, à l'industrie, il y aura des sujets de robotique parce que c'est des chaînes de production qu'il va falloir optimiser. Et donc, en ce sens, c'est très important pour nous. C'est aussi une façon de se lancer dans d'autres modalités. Donc, typiquement, la modalité vidéo pour nos modèles, c'est quelque chose qu'on peut développer aussi à travers la robotique.
La robotique, alors c'est un sujet tellement vaste. Quand on voit ce que font les Chinois ou Figure.ai avec des robots majordomes qui apprennent effectivement en regardant ce qui se passe, etc. Vous y croyez, vous, à tout ça? Alors c'est presque une question un peu plus personnelle finalement. Mais la robotique, c'est le prochain Eldorado, à votre avis, dans le domaine de la tech?
Alors, Eldorado, je saurais pas dire. C'est clairement quelque chose qui va marcher. Techniquement, j'ai plus l'impression qu'il y ait de grosses barrières. En fait, toutes ces questions vont se jouer à combien ça coûte, pour quels usages. Et c'est vraiment ça qui va jouer et c'est à ça qu'il faut réfléchir.
Très bien. Petite question. Alors, l'été dernier, on a eu très peur parce qu'il y avait une rumeur qui disait que Apple était intéressé par Mistral. Il y a prescription maintenant. Est-ce que il y a eu des échanges avec Apple à l'époque?
Alors,
ou c'était des rumeurs?
Quantité de rumeurs que je ne commenterai pas. Il y en a un peu tout le temps.
Ouais. Mais bon, moi, voilà, il y a prescription finalement. C'est du passé.
C'est l'avantage de mon rôle de directeur technique. Je peux laisser passer un peu ces questions. Et non, c'est des rumeurs comme tant d'autres.
Mais le fait d'être sollicité comme ça par des boîtes américaine, c'est gratifiant. Il y a aussi une notion, enfin, je veux dire, de responsabilité en se disant, il faut rester européen, il faut rester français. Ça fait partie aussi de votre réflexion, tout ça?
Alors, c'est des questions qu'on peut se poser, mais en fait, c'est vrai que de toute façon, c'est des acteurs à qui on parle aussi sur des sujets commerciaux. C'est des acteurs qui cherchent à diversifier leur stack technologique comme tous les autres. Et donc, on peut se parler pour des relations commerciales.
Très bien. Eh bien, Timothée, merci pour ce temps. Merci pour toutes ces précisions, de nous avoir présenté cet AI Now Summit. Le prochain aura lieu quand? On sait déjà ou pas?
Alors, j'aimerais que ce ne soit pas fin mai, parce que ça impose, un rythme de travail un petit peu difficile, mais j'imagine quelque part l'année prochaine.
Très bien. En tout cas, merci d'avoir pris du temps pour nous, pour Tech & Co en ce jeudi soir. Merci.
Rappelons
que vous êtes CTO de Mistral. Merci beaucoup, Timothée Lacroix.
Merci beaucoup.
Et bien voilà, ce Tech & Co, la quotidienne, est terminé. Merci en tous les cas de nous avoir suivis. Replay podcast de cette émission qui vous attendent. Et on se retrouve bien sûr dès lundi. Salut à tous et bon week-end.
Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.